Radio Okapi.
Bienvenue à cette édition du journal. Nous serons à Bandundu, ville qui accueille les travaux de la 13e conférence du gouverneur qui débute aujourd'hui. Le chef de l'État qui va présider ses assises est arrivé hier après-midi. Sur place, les attentes des populations sont nombreuses. Elles vont de la réhabilitation des routes à la restauration de la paix dans la province notamment. Vous les suivrez dans ce journal. Encore un déraillement des trains sur l'axe Kolezi-Dilolo, cette fois près du village Kaoundou dans le Lualaba. L'accident s'est produit lundi dernier. Bilan, 3 morts et 6 blessés graves selon la SNCC qui le lie à un excès de vitesse et l'ivresse du conducteur. Occasion pour l'ONG Justicia d'insister sur l'amélioration des conditions de voyage dans les trains. La crise au Moyen-Orient s'est invitée hier dans l'émission Dialogue entre Congolais. Les intervenants ont analysé ce que pourraient être ses conséquences sur l'économie congolaise. Vous suivrez leurs avis dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité de ce matin reste encore dominée par la 13e conférence des gouverneurs qui devra commencer ce mercredi dans le Bandundu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé hier après-midi dans la ville de Bandundu. Il a été accueilli sur place par la première ministre Judith Suminwa et les membres du gouvernement. Le chef de l'État est arrivé dans cette partie de la RDC pour lancer officiellement les travaux de cette 13e conférence des gouverneurs. Notez que le thème de cette édition est transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion aux marchés urbains. Jusqu'au samedi prochain, cette grand-messe va aborder des questions cruciales pour le développement et la gouvernance de la République démocratique du Congo, notamment les enjeux agricoles, économiques et sociaux. Mais quelles sont les attentes de la population du coin, elle qui voit arriver plusieurs délégations des gouverneurs? Certains proposent l'asphaltage de la route nationale numéro 17, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. D'autres souhaitent la restauration de la paix sur le tronçon Bandundu-Mongata, en proie à l'insécurité causée par la milice Mobondo. Suivez les avis des uns et des autres dans ces propos recueillis par Irène Boma depuis le Bandundu.
Notre souci est d'abord l'insécurité qui a longtemps régné avec le mouvement des Mobondo qui a handicapé les déplacements de Bandunduville jusqu'à Kinshasa par la voie routière puisse s'arrêter et que cette route soit aussi réhabilitée. Je parle de la route Bandundu-Mongata.
Je suis vraiment dans la joie parce que la conférence des gouverneurs, c'était dans notre ville. Vraiment, c'est une joie, ça honore notre ville. Donc, pour le moment, je peux dire que la ville de Bandundu est devenue la capitale de la RDC. Je demande que les décisions qui seront prises dans cette conférence soient pour le bien de la population.
Et pour moi, vraiment, ça me fait de la joie. C'est une fierté que nous puissions recevoir le président de la République ici avec tous les gouverneurs en ses liens. Ça leur donne une idée de ce qui représente les couilles. Mais nous sommes appelés aussi à prendre une route contournée qui nous prend beaucoup de temps. La route, l'état de la route aussi est très mauvaise, très très mauvaise.
Déraillement d'un train marchandise sur l'axe Kolezi et Dilolo aux environs du village Kaoundou dans la province du Lualaba. L'accident s'est produit lundi dernier. Bilan, 3 morts et 6 blessés graves selon la Société nationale de chemin de fer du Congo. Le directeur général adjoint de la SNCC a, dans une conférence de presse tenue hier mardi à Lubumbashi, déclaré que le train qui a connu l'accident appartient à Impala International, partenaire logistique de la SNCC. Le point avec Paula Munanga.
Le DGA de la SNCC souligne que parmi les personnes décédées, 2 sont des passagers clandestins. Il annonce que la cause de l'accident du train serait l'excès de vitesse et l'ivresse au volant du conducteur d'Impala International, partenaire de la SNCC. Maître Trésor Kapuku Ngoy, DGA de la SNCC.
Malheureusement, le conducteur en question, c'est un multirécidiviste parce que en vérifiant, nous avons constaté que c'est un ancien agent SNCC révoqué pour situation d'ébriété excessive et parmi les causes qui ont milité qu'on puisse le révoquer de la SNCC, c'est ivresse et conduite et comportement dangereux.
Sur les lieux du drame, on entend des cris et des pleurs. Certains parmi les blessés ont perdu leur membre inférieur, indique l'administrateur du territoire de Mitouaba. Sur un convoi de 15 wagons que tractait la locomotive, 6 se sont littéralement couchés et certains passagers ont été coincés par la cargaison constituée essentiellement de cathodes de cuivre. Signalons par ailleurs que le DGA de la SNCC reconnaît que sa société fait face au problème des chemins de fer qui est vétuste. Mais elle se bat tant bien que mal pour assurer à sa clientèle de bonnes conditions de voyage. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Les causes justement de ces déraillements à répétition dans cette partie de l'ex-Katanga. Pour l'ONG Justicia ASBL basée sur place, plusieurs causes sont à la base des déraillements dans le Lualaba et le Haut-Katanga. Maître Timothée Mbouya, président de l'ONG, affirme que ces accidents sont causés entre autres par la vétusté de voies ferrées et l'absence de signalisation. Les propos de Maître Timothée Mbouya sont recueillis par Paula Munanga.
Vous allez vous rappeler que nos rails sont vraiment très usés, déformés ou mal entretenus et qu'ils datent de plusieurs années déjà. Vous avez des locomotives qui sont très très anciennes, avec des pannes très fréquentes, des wagons mal entretenus et parfois surchargés. Vous avez un transport irrégulier des passagers, en même temps vous avez... On entasse et les passagers et les colis dans les wagons. Il y a même des gens, des passagers qui sont sur le toit. Il y a des erreurs humaines, notamment la mauvaise formation ou la fatigue des conducteurs, parfois l'absence des signalisations. Et tout ça se résume en une sorte de faiblesse de gouvernance et des financements. Donc parmi les mesures urgentes à prendre, il y a l'amélioration de la gouvernance, il y a la lutte contre l'impunité, la corruption, les détournements des deniers publics, l'achat des nouvelles locomotives, il faut la réhabilitation des infrastructures, notamment les rails, les traverses et tout ce qui va avec pour permettre aux locomotives de bien circuler sur les voies ferrées.
Pénurie de carburant ou non à Kinshasa, en tout cas le ministère de l'économie nationale et celui des hydrocarbures s'impliquent. Ils annoncent avoir pris des dispositions immédiates pour faire face au contexte de tensions sur le marché international des produits pétroliers liés à la situation géopolitique au Moyen-Orient. Des dispositions sont prises en coordination avec les ministères sectoriels concernés et les opérateurs du secteur. C'est notamment l'approvisionnement et le renforcement du rythme des livraisons de carburant de jour comme de nuit. Les détails avec vous, Blaise Chintani Kambala.
Selon le communiqué des ministères de l'économie nationale et des hydrocarbures, rendu public ce mardi, ces dispositions portent notamment sur la mise en place des mesures exceptionnelles visant à alléger certains coûts liés à l'importation et au transport des produits pétroliers afin de faciliter leur approvisionnement sur les marchés nationaux, mais aussi le renforcement du mécanisme des avances aux sociétés pétrolières en vue de soutenir leur trésorerie et de garantir la continuité des opérations d'importation. Les deux ministères annoncent aussi la levée de tous les obstacles au dédouanement accéléré des produits pétroliers. Le ministère de l'économie nationale et le ministère des hydrocarbures rassurent la population qu'il n'existe pas de pénurie de carburant et que des stocks de produits pétroliers sont disponibles et suffisants pour approvisionner l'ensemble du territoire national. Les sociétés en charge de l'approvisionnement ont également été instruites de renforcer le rythme des livraisons de jour comme de nuit afin d'améliorer la desserte des stations.
Suite de la grève des travailleurs des magasins des Indo-Pakistanais autour du SMIG avec l'interpellation d'un membre de l'intersyndicale du secteur du commerce. Il s'agit de M. Justin Amouila. Il a été interpellé hier mardi aux environs de midi alors qu'il sensibilisait les travailleurs à l'aide d'un mégaphone pour réclamer l'application du salaire au minimum. Selon les informations recueillies, il a été transféré au camp Lufungula. Les grévistes dénoncent cette interpellation et appellent les autorités à libérer immédiatement leurs collègues. Entre-temps, les activités commerciales sont toujours paralysé dans plusieurs parties de la ville de Kinshasa. L'intersyndical Guy Koukou s'exprime à ce sujet au micro de Nancy Atambo.
Aujourd'hui, vers les heures de midi, le camarade Justin Mouila, qui a été arrêté, il est de l'intersyndical du secteur de commerce, comme ils sont en grève, pour réclamer les SMIC. Ils ont été arrêtés par la police et transférés au camp de Fungula. Pourquoi nous dénonçons? Parce que nous trouvons qu'il y a une recrudescence des arrestations des syndicalistes. Il y en a un à Fayo qui est arrêté à Litouri, transféré au parc militaire là-bas. Et aujourd'hui, à Kinshasa, il y a encore l'arrestation. La grève est garantie par la Constitution. La police doit encadrer les gens qui sont en grève parce que ça a été annoncé, parce que c'est une grève aussi qui est légale. Nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui on doit continuer à arrêter les syndicalistes parce qu'ils réclament. L'intersyndicale nationale du Congo, à ma bouche, dénonce cette arrestation et demande la libération immédiate de ses deux camarades Anitouri et Kinshasa parce que nous sommes dans un état de droit et même le chef de l'État est garant de nos droits. Et si nous sommes mécontents, nous devons
nos excuses pour la qualité de ce son. Parlons sécurité avec ces révélations des Reporters sans frontières. De nombreuses personnes, dont des civils et au moins deux journalistes, sont séquestrées et torturées dans des conteneurs par le groupe armé 123, explique RSF. Cette organisation ajoute que ce groupe armé, qui contrôle une partie de l'est de la RDC, a utilisé des conteneurs sans lumière ni aération pour détenir ces personnes. Cette ONG internationale qui défend la liberté de la presse a enquêté sur cette pratique et condamne les conditions de détention de ces personnes qu'elle qualifie d'inhumaines. Et s'agissant du 123, Reporters sans frontières fait savoir que ce mouvement nie tous les faits, notamment l'arrestation et la séquestration des journalistes, et parle d'une campagne de propagande contre son mouvement. La journaliste du desk investigation à RSF, Aïfam Salouat, donne plus de détails au micro de Radio Capi.
Les éléments que nous avons récoltés témoignent vraiment de conditions de détention inhumaines, avec des personnes qui sont entassées par dizaines dans ces boîtes métalliques. Ils n'ont droit de sortir qu'une fois par jour pour faire leurs besoins et ne sont nourris qu'une fois ou deux par jour d'un maigre repas. Et à partir du coup de ces éléments que nous avons cherché à identifier où étaient localisés ces containers, notamment grâce à des images et des vues satellites. Et d'après notre enquête, nous avons pu identifier plusieurs de ces containers dans la cour de l'Assemblée provinciale de Goma, dont le M23 s'est emparé après la prise de la ville en janvier 2025. Or, ce bâtiment avait déjà été identifié par Amnesty International comme un site de détention informelle dans lequel le M23 pratique des exactions et des actes de torture. Et ça ne fait que confirmer toutes les accusations dont sont accusés le M23, qui est accusé par l'ONU et plusieurs organisations de défense des droits humains de très graves violations. Et donc nous, évidemment, à RSF, nous condamnons fermement cette séquestration qui va clairement à l'encontre des normes internationales relatives à la détention. Nous avons évidemment contacté le porte-parole du M23 sur la base de ces révélations, et le porte-parole a vraiment nié que des journalistes aient pu être arrêtés et enfermés, et que ce sont des informations totalement infondées qui relèveraient d'une campagne de propagande dans le but de ternir l'image du mouvement.
Des femmes engagées, jeunes journalistes et acteurs sociaux autour des défis culturels, politiques et médiatiques liés à la condition de la femme en RDC. C'était hier mardi à la MONUSCO ici à Kinshasa. Vous avez compris, c'est à l'occasion du mois dédié aux droits des femmes. La conférence avait pour thème le féminisme en RDC, défis culturels, politiques et médiatiques. L'objectif est de lutter contre la désinformation et les discours de haine visant la femme. Cette rencontre a été organisée par la structure chargée de vérification des faits Baloba Kitchek en collaboration avec la MONUSCO. Plus de détails avec J.R. Kamamba.
Les échanges ont porté sur la perception du féminisme en RDC, souvent mal comprise et entourée de nombreuses fausses informations. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux jouent un rôle ambivalent, à la fois outil de sensibilisation, mais aussi un vecteur de désinformation, a déclaré Mme Léa Ouchoudi, chargée des programmes au sein de Baloba Kitchek.
Les réseaux sociaux sont actuellement en train de favoriser le féminisme. C'est comme si c'est un couteau à double tranchant. Vous allez vous rendre compte qu'en ce mois de mars, ce mois dédié au droit de femmes, donc il y a beaucoup de désinformations genrées, c'est-à-dire des fausses informations qui circulent à l'égard des femmes. Donc les réseaux sociaux sont là parce que c'est le moyen le plus rapide par rapport aux médias traditionnels. C'est le moyen le plus rapide pour véhiculer une information, qu'elle soit vraie ou fausse.
Prenant la parole, M. David Fundi de la MONUSCO appelle à une prise de conscience collective, notamment chez les jeunes, les femmes et les professionnels des médias. Il insiste également sur la nécessité de déconstruire les stéréotypes et de promouvoir une approche inclusive du féminisme.
Donc on doit éviter ces stéréotypes, la discrimination, le discours d'haine, ainsi que la désinformation autour des codes de la femme. Ce sont des messages que nous adressons aux jeunes, à la population congolaise. Donc on doit considérer le genre. L'homme a toujours besoin d'une femme, la femme a toujours besoin de l'homme, ce qui fait la société.
La journée mondiale de la tuberculose a été célébrée hier mardi 24 mars. Au Maniema, les autorités sanitaires rappellent que la maladie demeure une menace réelle, mais qu'elle peut être vaincue grâce à un engagement collectif. Selon le médecin coordonnateur du programme provincial, les données de l'année 2025 montrent que près de 6000 cas de tuberculose, toutes formes confondues, ont été notifiés dans la province. Que retenir, Florence Kizalunga?
Les autorités sanitaires du Maniema rejoignent la communauté nationale et internationale pour intensifier la sensibilisation et accélérer la lutte contre cette maladie. Les médecins coordonnateurs du programme en province présentent la situation telle qu'elle se pose aujourd'hui. Docteur Soukaï Jean-Luc.
Tuberculose, ça continue à être un problème de santé publique et une menace pour la communauté. D'autant plus qu'il y a des faibles notifications aux cas attendus. Il y a aussi des retards dans les dépistages des cas et des défis d'accessibilité géographique aux structures de santé et une persistance de la stigmatisation de patients.
Pour les autorités provinciales, la tuberculose reste évitable et guérissable à condition d'être détectée à temps. Le ministre provincial de la Santé encourage la population à recourir aux structures sanitaires pour un dépistage gratuit et une prise en charge appropriée.
J'interpelle tous les prestataires de santé de prendre d'abord conscience à la communauté. Quelqu'un qui tousse plus de 2 semaines, il n'a qu'à consulter l'hôpital pour se faire dépister. Parce que les soins sont gratuits, les médicaments sont là. La tuberculose est guérissable.
Docteur Alexis Choma insiste également sur l'importance de suivre correctement les traitements, condition essentielle pour atteindre une guérison complète. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le Ghana et l'Union européenne ont signé hier leur premier accord officiel de partenariat en matière de défense, alors que le pays se présente comme un rempart régional face à la montée de la violence djihadiste qui secoue l'Afrique de l'Ouest. Cet accord signé à Accra vise à renforcer la coopération dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme, le partage des renseignements et la gestion des crises.
L'invité.
Dans un contexte de conflit armé dans l'Est de la République démocratique du Congo, sécurité économique et situation humanitaire déjà fragilisée, la guerre au Moyen-Orient entre la coalition américano-israélienne et l'Iran impacte la RDC principalement dans les secteurs des hydrocarbures. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi ont analysé ce que pourraient être les conséquences de cette crise du Moyen-Orient sur l'économie congolaise. On les écoute au micro de Guimaté.
Emery Mbachibope, vous êtes président de l'association des pétroliers privés de la RDC. Quelle analyse vous faites de cette situation, monsieur Emery Mbachibope?
En ce moment précis, nous pouvons dire que la situation est vraiment préoccupante. Nous sommes un pays, un grand pays consommateur de produits blancs et que la guerre qui sévit au niveau du Moyen-Orient, nous, en tant que grand pays consommateur de produits pétroliers, nous ne pouvons pas échapper aux conséquences de cette situation. Nous avons déjà une situation de cette à l'Est qui déjà on se bat pour que cette agression puisse finir parce que ça affecte notre économie aussi. Ajouter la situation des Moyen-Orient, je crois que ça a des répercussions importantes sur notre économie, l'économie congolaise, notamment sur le secteur des hydrocarbures.
Et la pénurie qu'on constate dans certaines stations actuellement, est-elle liée directement à la situation dans les Moyen-Orient ou ce sont plutôt des spéculations qui peuvent se justifier dans un tel contexte?
Bon, au vu de tout ce qui a été dit par les autorités compétentes, vous avez suivi, comme nous tous, il y a la possibilité d'avoir une couverture, selon les ministères des hydrocarbures, qui peut aller jusqu'au mois de juin. Moi, je crois que nous devons quand même faire confiance à notre gouvernement, parce que pendant la période difficile de Covid, nous étions, si pas parmi les pays qui ont géré cette crise, au point que nous avons gardé notre prix à la pompe inchangé et au niveau interne dans la structure des prix parce que le produit pétrolier, ce sont les produits hautement stratégiques dont le prix d'achat à la pompe, comme tous les consommateurs, ne dépend pas seulement des facteurs endogènes ou des facteurs liés à notre pays. Nous dépendons aussi des cours des marchés au niveau international, ce qui fait que on peut toujours garder la situation telle qu'elle se présente, mais en bougeant ou bien en touchant sur certains leviers de sûreté à l'interne pour permettre à ce que on puisse gérer cette situation de crise qui est arrivée par cette guerre au Moyen-Orient.
Merci Fabrice Ngabo, vous êtes expert en fiscalité et finances. À votre avis, quelle pourrait être l'efficacité et aussi les limites des différentes mesures que vient d'annoncer le gouvernement pour amortir les chocs?
Bon, la première limite, c'est que nous n'avons pas le contrôle de la production. Alors, il sera difficile le fait pour le gouvernement d'avoir rassuré et du coup avoir les dividendes. Et donc, je pense que la question doit être prise au sérieux dans la mesure, au niveau international, déjà la perte que l'économie mondiale a subie, elle est significative. Si on considère le prix du baril du pétrole à $100, américain avec les 20 millions de barils de pétrole par jour, vous avez pratiquement 2 milliards de dollars américains en termes de pertes que l'économie mondiale subit. Et si cette crise atteint par exemple 60 jours, on sera pratiquement à 60 milliards. Et donc, des pays fragiles comme les nôtres, qui ne produisent pas, qui ne transforment pas, qui ne raffinent pas, et donc vont subir des conséquences graves pour le fait de n'avoir pas pris en considération cette donne avant. Maintenant, on est rattrapé et ça devient très compliqué.
Merci. Lems Kamonia, vous êtes expert en économie et finance. Et c'est quoi pour vous la solution efficace et durable pour la RDC?
C'est un problème d'investissement. On n'a pas investi massivement dans les secteurs pétroliers, que ce soit en amont ou en aval, parce que il faut investir dans la prospection, il faut investir dans la production, il faut investir dans les infrastructures de raffinage des produits pétroliers afin d'avoir les produits qui sont consommables par les entreprises et autres. Ce retard a été massif. L'État n'a pas eu des moyens conséquents ou n'a pas investi dans ce secteur et l'État n'a pas aussi mis en place une politique incitative pour attirer les investisseurs privés qui pouvaient investir. Je crois aujourd'hui ça devient plus qu'urgent que l'État regarde ces deux axes. Premièrement, l'État peut investir lui-même dans le secteur pétrolier et de deux, l'État doit avoir des politiques incitatives et diversifier les partenaires qui viennent investir dans le secteur pétrolier, que ce soit en amont comme en aval.
Dialogue entre Congolais est à suivre sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Merci de l'attention que vous avez accordée à ce journal. Yevine Bingala a préparé, Alain Goy l'a mise en onde. À toutes et à tous, excellente journée.